Simply the best. Down, 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 down.
Bonjour à tous et bienvenue dans le meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast. Aujourd'hui, on va parler du 9e art, on va parler de la bande dessinée. Je m'appelle Tom.
Ça va, Tom ?
Ça va et toi, Cyrus ?
Très très bien, très très bien.
Ça fait plaisir.
Ouais, grave, grave. Et on est bien entouré.
Tiens, pour la 42e fois, finalement.
Est-ce que tu veux présenter nos invités ?
Ah bah écoute, merci de cette jolie perche que tu me tends. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités de grande qualité, une habituée de l'émission et une personne qui vient pour la première fois. On a le plaisir d'accueillir une grande
qui vient
autrice
de, loin, qui vient de
bande
loin.
Dessinée qui a traversé tout Paris pour nous rejoindre. On reçoit Pénélope Bagieux. Salut Pénélope.
Salut.
On est très content que tu sois là.
Moi aussi.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pénélope Bagieux, pour les gens qui ne te... Je ne vais pas dire Pénélope Bagieux à chaque fois.
Hein. Oui, je me demandais.
Je vais m'inviter à Pénélope. Ouais. J'allais reprendre. Pénélope, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, tu es autrice de bande dessinée et tu as créé des succès tels que Les Culottés dernièrement, Joséphine, La Page Blanche, California Dreaming et plein d'autres choses encore.
C'est ça.
Voilà, j'ai vachement bossé mes fiches invitées.
Ouais. J'avoue, j'étais sur ta page Wikipédia tout à l'heure et ça fout le vertige presque, le nombre de réalisations, de prix, de genre là j'ai vu t'as une librairie,
une bibliothèque
à ton nom. J'ai genre ouais, ok, donc gros niveau.
Ça m'a pas demandé tellement de travail par exemple, donner mon nom à une bibliothèque.
Bah
ça
ouais,
prend
c'est
pas
une conséquence de tout ce qu'il y a avant quoi.
Ah oui oui.
On peut le voir comme ça aussi.
C'est vrai.
Mais il y a également une quatrième personne qui est un peu la libraire du meilleur podcast.
Ah, c'est vrai que je me sens... Vous êtes ma famille.
Ouais, non, mais voilà, on sent qu'il y a un vrai truc. On reçoit qui, Cyrus ?
On reçoit Lucie Cosmala.
Salut.
Pour la troisième fois.
Pour la troisième fois.
Sur Harry Potter, on l'a reçu, sur La Meilleure Maison et sur le meilleur livre à lire pour cet été.
Pour la plage, ouais.
Et qui est une slasheuse.
C'est terrible comme mot, c'est terrible.
Voilà, donc journaliste littéraire, notamment...
Ouais. Spécialiste en littérature jeunesse, principalement.
Notamment en radio et tout.
Ouais, radio, télé, et puis je bosse aussi pour le Salon du Livre de Paris. Voilà. Comme je disais à Tom avant, dès qu'il y a un projet cool, je dis ok, ça va, je le fais.
Et j'ai vu que vous étiez toutes les deux DJ.
Alors non, mais chose intéressante, déjà je suis très heureuse d'être avec Pénélope pour ce sujet parce que je me suis mise à la BD grâce à elle.
Non, c'est vrai.
Parce que je regardais tes chroniques vidéos sur Mademoiselle, donc c'est grâce à toi que j'ai acheté vraiment mes premières BD, genre après Tom Tom et Nana.
Quoi. C'est fou ce qui se passe.
On mettrait une petite musique un peu derrière ce moment.
Et c'est aussi grâce à toi que j'ai connu les soirées We Are the 90s et aujourd'hui je suis DJ pour ces soirées. Voilà, donc je te dois beaucoup de choses dans ma vie, Pénélope.
Quel héritage.
Finition et coup de vieux quand même, on peut le dire aussi, hein, parce que du coup, il n'y a plus beaucoup de doutes sur notre écart d'âge. Mais,
mais c'est cool. T'étais DJ aussi
ouais, tout à fait.
Aux mêmes soirées.
Ouais.
Incroyable. Voilà, on n'y est jamais allé, Tom.
On n'y est jamais allé pour l'instant.
Ouais, on a prévu d'y aller, mais on n'y est pas allé.
Voilà. Tenez-moi au courant.
Pour l'instant.
D'ailleurs, ils ont ouvert un bar de 36-15.
36-15. Qui est très cool. Et je suis aussi DJ là-bas.
Oh là là.
Oh là là.
La meuf est partout.
Elle vit le jour, elle vit la nuit, elle ne s'arrête jamais.
Pour tous les gens qui n'habitent pas Paris, nous parlons malheureusement d'événements qui se passent à Paris.
Ah non, mais pas les We Are.
Les We Are, c'est partout.
Ça s'exporte.
Oh. Ouais, okay. Ouais, on a de temps en temps à Montpellier, des chronologiques aussi. Et je crois qu'il y en a une à Rennes bientôt. Enfin, voilà.
Eh bien, allez hop, le lien de tous les We Are dans la description pour savoir où les trouver.
Tom, j'attends que tu finisses de tousser.
Merci.
Pour te demander si tu n'avais pas un édito à nous lâcher là. Un petit éditum finalement. Parce que c'est édito. De Tom, du coup.
Ah, je m'en lasse jamais.
Attendez, juste deux minutes, juste être sûr que c'est bon, non, rien à l'horizon. Non, c'est bon, désolé, je vais juste être sûr que Marie Saint-Phil ne s'infiltre pas dans cet éditum. aujourd'hui, on a le bonheur de parler de la seule chose qui nous faisait aller au CDI, de l'œuvre culturelle qui squatte 85% des toilettes françaises et surtout de la discipline qui est reconnue officiellement comme un art, hein, le 9e, alors que l'inscription du code Wi-Fi du premier coup ou que l'assortiment de ses chaussettes à ses chaussures n'en sont pas encore un. Je parle bien sûr de la bande dessinée. Bon, désolé si je suis un petit peu désagréable là comme ça, c'est parce que je suis un peu frustré. Frustré car j'adore la BD, mais que je ne sais absolument pas dessiner. Hein, je manie si mal le stylo qu'une ordonnance de médecin généraliste, bah, c'est une œuvre de calligraphie à côté de mon cahier. Et niveau dessin, j'arrive à peine à rivaliser avec les peintures de Lascaux. C'est simple, je suis moins fort au Pictionary que Pascal Praud au Roi du Silence. Et je suis hyper admiratif des auteurs et autrices de BD car ils arrivent à te faire passer autant d'émotions qu'un roman traditionnel, mais en enlevant tout le côté chiant. Le seul vrai problème que je trouve aux auteurs et aux autrices de BD, bah, c'est le choix des prénoms de leurs personnages. On dirait qu'ils ont tout préparé, tout bien écrit, et que deux minutes avant de rendre leur planche, ils se rendent compte qu'ils ont oublié un truc. La couverture, c'est bon. Le numéro en bas de page, c'est bon. La petite touche de jaune sur la voiture du méchant, nickel. Bon, bah, j'ai tout. Merde, j'ai oublié le nom. Bon, on va partir sur, allez, Tintin, j'en sais rien. Tu sens que ça s'est choisi dans l'urgence et l'impro la plus totale, le truc, c'est pas possible. Mais bon, tout ça, ce n'est peut-être que mon ressenti sur la bande dessinée et du coup, j'aimerais bien avoir le vote, chers invités. C'est quoi la première BD qui a une vraie influence sur ta vie, Lucie ?
Waouh, tout de suite.
Ouais, tout de suite, on plonge dans le bain.
Moi, je dirais qu'il y en a eu deux. Une dont je dois la lecture à Pénélope, qui est Coucou Bouson, d'Anouk Ricard, parce que c'est la première BD où j'ai compris que j'avais un humour absurde. Et en plus, qu'on pouvait faire de l'humour absurde avec des personnages qui sont très mignons, très gentils, c'est des petits animaux, tout mignons, on se rend pas du tout compte que c'est une BD pour adultes. Et donc ce côté décalage et tout, je me dis « Ah ouais, en fait, moi, c'est ce genre de truc que j'aime bien. » Et la deuxième BD qui a été aussi importante pour moi, ça s'appelle « Le trop grand vide » d'Alphonse Tabouret. Et c'est une BD aussi incroyable, tellement elle est profonde, elle est toute mignonne. En fait, il y a un côté naïf, mais hyper existentiel aussi derrière. Et pareil, c'est un truc qui m'a beaucoup remué. Et ça fait, enfin, ces deux BD, elles m'ont fait prendre conscience de la qualité des BD qui sortaient. Et qu'en fait, il y avait Tintin, il y avait Astérix, c'est très cool, mais il y avait aussi des choses très très variées et graphiquement très très audacieuses et très très imaginatives.
Et ça arrive vers quel moment de ta vie à peu près ?
Coucou Bouson, je devais être étudiante. Et
plutôt tard quand même finalement.
Ouais. Ah, moi, je suis spécialiste en littérature jeunesse, j'ai découvert la littérature jeunesse à 20 ans. Donc vraiment, on est sur des découvertes assez tardives. Mais ouais, Coucou Bouson, c'était plutôt quand j'étais étudiante et le trop grand vide d'Alphonse Tabouret, ouais, je devais être en master dans ces eaux-là.
Ok. Pénélope, c'est quoi toi la première BD dont le souvenir ça t'a bouleversé et qui a une vraie influence sur ta vie ?
Tom Tom et Nana.
Ok.
Ouais, vraiment, qui a un statut un peu particulier, je pense, dans la tête des gens, parce qu'on oublie qu'on l'a lu et qu'en fait c'était ça la première BD qu'on lisait. C'est qu'en général on cherche, on dit qu'est-ce que j'ai lu comme grand cartonné 48 pages de mes parents quand j'étais petit. En fait, non. Réfléchis bien. Tu as lu, comme tout le monde, uniquement Tom Tom et Nana dans J'aime lire, frénétiquement, à chaque fois que tu avais ton J'aime lire. Et c'est adulte que je me suis rendu compte déjà de l'aspect assez fédérateur qui était que... Bon, c'est assez générationnel, mais en fait, pas tant que ça, parce que ça a duré vraiment hyper longtemps. Qu'en fait, tout le monde a adoré Tom Tom et Nana. Qu'elle a quand même un record de longévité extraordinaire et que c'est super et que la raison pour laquelle on aime trop quand on est petit Tom Tom et Nana, c'est parce que c'est des héros tellement cool, c'est hyper transgressif, ils passent quand même leur journée à faire des conneries, ils sont pas du tout surveillés par les parents qui gèrent le restaurant et qui s'en foutent.
Ils vont pas du tout à l'école.
Ils vont parfois à l'école, très peu, ils enferment leur sœur dans une cave, enfin, c'est complètement fou mais il y a quand même des constances quoi, ils savent que globalement bon, c'est toujours un peu le bordel à la maison mais que leurs parents en fait, les aiment, sont cool et ils ont les clients qui sont tout le temps là. Et puis, c'est une BD très populaire, pas que dans le sens qui plaît à tout le monde, mais qui parle d'un milieu très populaire. C'est pas un aventurier qui court le monde avec son chien, quoi. C'est des enfants dans un resto moyen avec des gens. Enfin, ça a clairement pas l'air d'être un truc qui est au Michelin, quoi, le resto des parents. Et je l'ai lu très longtemps et en les relisant maintenant, j'arrive à comprendre pourquoi j'aimais autant. Et donc, en fait. Au-delà du fait que c'est en plus c'était écrit et dessiné par une femme, ce qui est toujours un plus, surtout quand j'étais petite. Mais voilà, je me dis, mais c'était déjà de la super BD en fait. Donc c'est assez rétrospectif comme choc, puisqu'après j'ai plus lu de BD pendant 15 ans, bien tassé. Et que exactement comme toi Lucie, je m'y suis remise sur le tard, après 20 ans. En me rendant compte que... Bah, en fait, je ne veux pas redire ce que tu dis, parce que tu l'as dit très bien, quoi, que ce genre d'émotions, on peut les avoir par la BD, qu'on peut avoir un dessin magnifique, qu'on peut parler de tous les sujets, qu'on peut pleurer de rire comme avec Coucou Bouson, qu'on peut être terrifié, qu'on peut pleurer, qu'en fait, ce n'est pas un plan B de la littérature. Donc, peut-être quand même... Alors, je ne parle que de très gros succès, mais je pense que, de ce point de vue-là, Persepolis est quand même un milestone, comme on dit chez les anglo-saxons, parce que là, c'était un nouveau message fort pour moi. C'était, ah oui, tu peux vraiment parler de tout. Tu peux raconter des choses très dures. Le tout avec un parti pris graphique qui est quand même... qui était rare pour l'époque.
C'est un vrai parti pris.
Un format très, très long en noir et blanc. De manière en plus sous forme de série, enfin de feuilleton quoi, donc en racontant des choses qui peuvent paraître anecdotiques et insignifiantes jusque-là, c'est-à-dire elle raconte quand même aussi son adolescence et qu'elle planque son maquillage et tout ça. Et elle parle aussi d'un sujet quand même très politique. Et surtout, Persepolis a réussi quelque chose à l'époque, c'est que c'était la BD qui était chez tout le monde. Mmh. En fait, c'était, elle a vraiment... je déteste dire donner ses lettres de noblesse parce que la BD n'en avait pas besoin, mais je pense qu'elle a vraiment fait entrer la bande dessinée sur les tables basses des gens. Ce que je trouve Riyad Sattouf refait après, quoi. Mmh. C'est que même les gens qui disent « Ah, je sais pas, pardon, je préfère les vrais livres », bon, bah, ça a un peu claqué le beignet, quoi. Donc, on lui doit beaucoup.
Très belle expression, on claquait le beignet.
Oui. Ouais.
Mais c'est absolument pas. Est-ce qu'on peut, je rebondis sur J'aime lire, est-ce qu'on peut briser un tabou aujourd'hui et dire que Tantôme et Anna était la seule chose qu'on lisait bien dans sûr. Les J'aime lire ou pas?
Les jeux de bonne mine pouvaient être
oui,
pas mal.
Oui, un petit peu.
Mais c'est clair qu'il n'y a personne, tout le monde s'en foutait.
Vraiment, on allait sur le Tantôme et Anna direct, quoi. Cyrus, est-ce que toi, il y a une BD? Alors, Cyrus, je sais que tu voulais faire peut-être un petit laïus.
Ouais, je vais faire un petit laïus, ouais.
Tu ne sais pas lire, et c'est un problème que tu voulais...
Non, mais dans le meilleur podcast, ça nous arrive de parler de plein de thématiques qu'on ne connaît pas forcément, etc. Et donc, c'est aussi le but. Et là, je suis vraiment novice, mais à haut niveau. J'ai très peu eu de BD. En fait, je me demande, en vous écoutant, si ce n'est pas aussi culturel. C'est-à-dire que mes parents, leur histoire, c'est Persepolis, en fait. Donc, okay. Ils sont tous les deux d'origine iranienne. Ils sont partis au moment de la Révolution, etc. Et je me demande si en Iran, peut-être que la BD, c'est moins un truc... qu'ici ou que dans les pays occidentaux, je sais pas. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, j'ai eu très très peu de BD. Moi, j'avais pas du tout toute la série des Astérix, les Tintins, etc. Enfin, tout ça, c'est des trucs que j'ai découvert un peu plus tard en discutant avec mes potes et tout. Et donc, moi, ma BD qui m'a marqué, enfin, vraiment, c'est des trucs, c'est vraiment, le niveau est nul, quoi, mais je pense que ça va être Titeuf, quoi, tu vois.
C'est pas du tout nul,
Titeuf. Dieu, l'amour, le sexe et les bretelles, le premier album de Titeuf qu'en noir et blanc, je crois aussi, je dis pas de bêtises, était dingue, enfin, moi, je m'en rappelle.
Mais donc, de manière générale, j'avais un peu du mal avec la BD parce que, bah, déjà, je lisais ça hyper vite. Je me souviens, je terminais très, très vite une BD et alors que ça coûtait relativement cher pour le produit. Et j'étais hyper blasé, j'étais là genre bah non je vais pas payer, je sais plus combien d'euros à l'époque c'était, mais pour moi c'était beaucoup, et je me disais je vais pas payer ça pour 20 minutes, une demi-heure quoi. Donc j'avais vraiment cette logique productiviste que j'ai un peu d'ailleurs toujours aujourd'hui, Tom, tu me connais.
Ah bon?
Mais et j'ai vraiment, et après je parlais avec des gens et ils m'ont dit ouais mais tu regardes pas les dessins. Et genre c'est vrai qu'en fait, qu'il y ait des dessins ou pas, moi, quand j'étais kid, vraiment, je lisais les bulles, je passais de bulle en bulle. C'était vraiment genre la bande pas dessinée de Navo, quoi.
Ouais.
Et donc, hier soir, je lisais une BD et donc, je fais vraiment attention à regarder les images et à apprécier, en fait, le dessin et tout. Et je suis toujours perdu entre, ok, je lis quoi en premier? Je lis le texte, le dessin. Est-ce que je peux revenir après sur le dessin si je suis passé à un autre truc? Je tourne la page, bim, j'ai vu le dessin, j'étais spoilé, mince. Et tu vois, genre vraiment, j'ai l'impression d'être... un peu pâteau et je me sens un peu maladroit avec les BD quoi.
Et voilà. Du coup, c'est une bonne question que tu ouvres là. Comment ça se lit une BD? Comment ça s'apprécie selon vous? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce que c'est comme un livre, un roman plus traditionnel, ou par exemple un livre ça se dégaine facilement dans les transports en commun parce que c'est simple, le format est pratique et tout? Ou est-ce que le BD ça nécessite peut-être une attention supplémentaire comme Cyrus l'a dit, ou le dessin et tout ça c'est peut-être des nuances qu'on voit pas au premier regard? Est-ce que pour vous, il y a une manière différente de lire une bande dessinée, Lucie?
Je pense qu'il y a autant de manières de lire de BD qu'il y a de BD, c'est-à-dire que tu as des romans graphiques qui sont incroyables, où effectivement ça va peut-être demander une attention plus particulière de regarder les dessins. Tu as des BD où clairement c'est le texte, où c'est la punchline qui va fonctionner, donc tu peux les enchaîner comme tu veux. Oui, effectivement, je pense que lire une BD, ça demande peut-être une sorte de cérémonial supplémentaire, parce que tu peux pas trop la lire sous les selles de quelqu'un, dans le métro ou dans le bus, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, ouais, comme je te dis, je pense qu'il y a autant de manières de lire une BD qu'il y a d'intention, en tout cas, de la part des auteurs et des dessinateurs de faire des BD.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, beaucoup de ça, hein, l'émission, je vais beaucoup dire, je suis complètement d'accord. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand tu l'écris, pour le coup, t'essayes vraiment de prendre les devants de ça. Et comme tu aimes, comme tous les gens qui racontent les histoires, ce que tu aimes, c'est tirer les ficelles dans l'ombre et manipuler le lecteur, tu décides qu'il y a des moments où ils vont aller très très vite et des moments où tu vas leur faire passer beaucoup de temps sur une case avec des petites techniques de manipulation. Et du coup, tu sais qu'il n'y a rien de pire que regarder quelqu'un lire ta BD et de voir qu'il passe très vite des pages qui sont pas du tout faites pour aller vite, et t'as envie de lui mettre une tape derrière la tête. Tu vas me faire le plaisir de regarder cette case, oui. Et vraiment, il y a des trucs pour que les gens passent du temps ou pas, mais t'as complètement raison quand tu dis que ça dépend aussi vraiment de la BD. On va pas dire à quelqu'un j'aimerais que tu passes 20 minutes à regarder chaque image de Zai 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 Zai, quoi. Tu vois, on est là pour rigoler et que ça aille vite, c'est pas du tout Mais peut-être aussi l'intérêt, c'est de lire une BD plusieurs fois. Moi, je lis vraiment comme un mauvais lecteur, c'est-à-dire je lis super vite et je regarde pas les dessins quand je lis une BD. Vraiment. Et j'arrive pas du tout à me dire.
Je suis rassurée de ouf.
Essayons d'avoir cette. Parce que image plus texte, ça crée une troisième chose. Et que du coup, essayons d'avoir cette magie qui opère. Moi, quand je lis, surtout pour peu qu'il y ait un peu de suspense, je la bouffe en un quart d'heure, la BD, et je regarde pas du tout les dessins, mais je la relis après. Voilà. Et j'arrive à apprécier le fait que ce soit beau. Mais, et puis, t'as aussi des gens qui sont très forts dans l'image muette et dans te faire vraiment décrocher la mâchoire. Pas parce que c'est. Virtuose du point de vue du dessin particulièrement, mais parce que c'était très malin de mettre une case muette là-dedans. Je pense à ça, par exemple, dans les BD de Guy Delisle, particulièrement Guy Delisle, il fait des carnets de voyage de... des états voyous, quoi, c'est un peu son truc. Et donc, il a fait une BD qui s'appelle Pyongyang à l'association, et après, il en a fait une autre qui s'appelle Shenzhen, etc. Et puis, il a fait aussi ses carnets de Jérusalem, et pour moi, il est très très fort dans... Ça rendrait beaucoup moins si jamais il décrivait des trucs, une tonne de trucs par du texte, des dialogues. Parfois, on pourrait se dire, oh, mais il s'est pas fait chier. Mais en fait, si, c'est vraiment super malin. En plus, c'est toujours après avoir tourné la page, donc on est encore plus. Et il est vraiment très, très fort pour rendre l'ampleur d'un truc, un côté hyper impressionnant. Et c'est là que c'est l'intérêt de faire de la BD et pas de la prose. Parce que c'est une question que souvent on a en interview, c'est que les gens disent, mais alors, du coup, pourquoi avoir choisi de faire une BD et pas un livre ? Donc, t'es souvent comment ils frappaient ces gens. Et dire, mais parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, c'est pas du tout pour avoir de la peine pour les auteurs de prose, mais quelle tristesse de se priver de ce que tu peux créer de supplémentaire avec l'alliance du texte et de l'image, quoi. En fait, tu peux faire quelque chose d'assez proche du cinéma, moins le budget. Donc, c'est quand même la façon la plus cool de raconter une histoire. Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Pas tellement répondu à la question, mais.
Mais c'est vrai que le côté avec le cinéma, en lisant hier soir, je me suis dit, tu sais, il y a vraiment des moments où genre, t'es sur une seule page, donc t'as une scène qui se passe dans un environnement A, on va dire, et dernière case, paf, c'est l'environnement B, mais en très fort, tu vois. Et il y a ce côté, donc vu que je suis sur la même page,
cut.
Voilà, il y a vraiment un côté cut, ça donne vraiment cette sensation, tu regardes un film, quoi. Mais j'avais une question avant, sur un truc que t'as dit, Pénélope, qui est blabla. Ah oui, les trucs pour que les gens restent plus longtemps sur une case, c'est des trucs secrets ou
Non, mais je pense que tout le monde a sa petite méthode. Moi, c'est des trucs que m'ont dit des auteurs parfois avec qui j'ai travaillé et qui m'ont en plus dit ça comme si c'était une évidence, qui m'ont dit, bon là, évidemment, je ne vais pas te faire la leçon, tu sais que si tu veux que le lecteur passe du temps, tu fais ça et ça et ça. Vraiment, le cône de lumière qui est tombé du ciel, tu vois. Ah yes, en fait, on peut faire exprès. Mais ce que tu dis là, ce truc du page turner, tu vois, du petit cut avant de tourner la page, en fait, tu y penses quand tu construis ta double page, c'est que les choses doivent se passer à un moment précis pour qu'on ait... Enfin, il faut jouer de la mécanique du fait de tourner une page, et c'est en ça que c'est quand même assez différent du cinéma. Et aussi, tu peux pas obliger les gens à regarder quelque chose pendant un temps donné. Il faut que tu arrives à le faire artificiellement, donc c'est hyper difficile. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a une histoire qui est assez tristement connue dans le milieu de la bande dessinée. C'est un auteur qui a vu son éditeur, qui est pourtant un gros éditeur sérieux, décaler son chemin de fer d'une page. Donc ce moment de faire, c'est l'ordre des pages, en fait. Ouais. Tout a été décalé d'une page, c'est-à-dire que c'est pas très très grave parce que les pages sont toujours dans le même ordre, mais au lieu que ces pages impaires soient à droite, elles sont à gauche. Tout ce qui avait été pensé comme une grande double page était coupé en deux, il fallait tourner pour voir l'autre moitié de l'image, et absolument tous ces effets de oh, mais qu'est-ce qui va se passer, étaient morts, en fait. Et du coup, il y a eu tout un débat où il expliquait à l'éditeur, il dit, mais vous avez buté mon livre, en fait. Et l'éditeur disait, oui, enfin bon, toutes les pages sont là, elles sont dans l'ordre, je suis désolée, l'histoire est la même. Donc c'est vraiment piétiner toute cette réflexion qu'on a de se dire, mais moi je fais une mise en scène, en fait. Donc c'est comme si tu disais à un mec qui a fait un film, alors du coup je me suis permis d'enlever le son, mais franchement on comprend en regardant les images. Tu vois, c'est quand même... tout ça pour te dire qu'en fait c'est quand même voulu et travaillé, quoi. C'est pas une magie de... Ah, j'ai quand même bien fait la BD, hein.
Ça tombe,
ça marche pas mal. Ouais.
Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle L'art invisible de
Scott McCloud,
ouais, qui théorise toutes ces questions de construction d'une bande dessinée. Voilà, si ça vous intéresse, c'est une BD qui déconstruit la BD.
Qui lui explique peut-être les trucs de comment rester plus longtemps ou etc.
Mais après, est-ce que tu veux vraiment savoir le truc du tour de
magie ? On veut pas savoir les trucs.
Est-ce que tu préfères pas croire qu'il y a de la magie ?
Je sais pas. J'avoue. Après, je me fais mes propres théories. Je me demande si elles sont vraies, mais.
C'est vrai que du coup ça peut paraître un peu naïf peut-être, mais quand on connaît pas forcément bien la bande dessinée, on se dit que la manière dont c'est créé, c'était quelque chose de très spontané où on raconte une histoire et on imagine des choses au fur et à mesure. Est-ce que c'est une approche au contraire qui est peut-être scientifique dans le découpage. Je crois que c'était Uderzo et Goscinny qui bossaient pas mal comme ça, où en gros ils se disaient que tant de pages égale tant de paragraphes, j'écris hop, et ça leur permettait d'avoir un ratio très scientifique de ce qu'ils devaient faire pour avancer l'histoire en nombre de cases. Est-ce qu'on est obligé de passer par cette approche-là, ou est-ce qu'au contraire c'est quand même plus simple de jouer avec les codes et de l'écrire un peu plus au fur et à mesure?
Ben moi j'ai pas forcément l'expertise pour te dire ça. Ce que je sais, c'est que quand j'imagine une histoire, il faut que assez vite dans ma tête, je découpe un nombre de scènes. Et un nombre de scènes, que tu le veuilles ou non, bah, à moins que tu fasses un livre de 8000 pages. Et à la fois, tu te dis, bah, une scène où il doit se passer tel truc, telle info doit être passée, et les personnages doivent avoir à peu près cet échange-là, je m'en tirerai pas avec moins de 20 pages. Quoi. Moi, après, j'ai le défaut de toujours voir un peu à la baisse mon nombre de pages et de tout le temps avoir la surprise de « Ah, finalement, ça fait le double ». Donc voilà, bah, ma force maintenant, je me dis, ouais, j'ai dit 150, on va peut-être plutôt dire 300. Mais... c'est plutôt ça, quoi. C'est que tu sais que tu peux pas. Il y a des choses qui prennent du temps. C'est l'art séquentiel, hein, comme disait justement MacLeod. Donc, il va falloir que tu fasses des ellipses. Évidemment, tu peux pas tout raconter. Il faut que tu choisisses bien les moments que tu choisis de raconter, ceux que tu choisis de laisser. Enfin, on dit que ce qui compte en BD, c'est ce qui se passe entre les cases, pas ce que tu montres, quoi. C'est que comme mentalement, tu relis les points. Tu dis, bah, je sais pas. Il est venu avec sa carafe d'eau et la scène d'après, je suis en train de boire mon verre d'eau. On se doute bien qu'entre les deux, j'ai rempli mon verre, tu vois. Okay. C'est assez chiant. Et encore, ça dépend comment tu le racontes, mais tu vas pas tout raconter, quoi. C'est pas un documentaire. Mais voilà, il faut que tu te dises, bah oui, je pourrais pas raconter 40 ans dans le détail. Il va falloir que je fasse des coupes. Donc c'est plutôt ça, en fait, que tu penses. Mais je connais des auteurs méga talentueux qui écrivent complètement au fil de la plume, quoi. Qui se disent pas du tout, j'ai fait mon plan et tout. Moi, je suis vraiment une élève de Terminal L quand je fais une BD, quoi. J'ai un plan, du machin, mon développement, ma conclusion. Mais je connais plein de gens qui disent, oh, je sais pas, tu sais, on verra où ma plume me mène. Et ça marche. Et à la fin, ils retombent sur leurs pattes. C'est super bien rythmé. C'est... Donc, il y a aussi des gens qui sont touchés par la grâce, comme ça.
Lucie, donc tu es une lectrice plutôt assidue de bande dessinée.
Ça va.
C'est quoi pour toi une bonne BD comparée à une mauvaise? Qu'est-ce que tu attends quand tu vas voir une BD à recevoir comme émotion, comme stimulation?
C'est dur comme question. Ouais, en vrai,
c'est dur. Hein, mais on pose des questions hyper dures.
C'est hyper profond, quoi. Bah, déjà, t'as en partie répondu. Moi, il faut que ça me procure une émotion, quelle qu'elle soit. Donc, je peux être autant touchée par quelque chose de triste que par quelque chose de joyeux. De toute façon, une bonne BD, pour moi, c'est comme un bon livre, une bonne œuvre d'art, finalement. Il faut que ça me suscite quelque chose. Même si j'ai peur, je suis contente, parce que, en fait, je me dis que quelques dessins et quelques mots m'ont procuré du frisson, quoi. Enfin, j'avais lu Walking Dead, une partie des comics Walking Dead. C'est le seul livre qui m'a fait sursauter parce que j'ai tourné une page, en fait. J'étais où, là? Wow. C'est un zombie en pleine page, je m'y attendais pas du tout. Et moi, j'adore, en fait, quand un livre me procure ça, quand un livre arrive à me procurer autant d'émotions, quelles qu'elles soient, bah, c'est que c'est pour moi un bon livre.
Pénélope, une bonne BD, il y a une définition particulière ou pas?
Bah, exactement comme toi.
Nous sommes la même personne.
Avec en bonus, plus ça va, plus en la lisant, quand je me dis « Oh là là, mais je connais tellement de gens qui vont adorer ». En fait, quand je sais qu'en plus, je vais avoir ce petit égo prescripteur, de me dire « Oh non, mais alors ça va être... »
Je l'ai eu avant tout le monde.
Non, c'est pas tant
même
ça.
Pas ça.
C'est de te dire « Oh là, mais ça, je vais l'affiler à telle personne, ouais. Elle va adorer, quoi ». Et donc, plus je lis, plus je suis confortée dans cette impression, en le disant « Ah oui, en plus, la fin est géniale, ok. Enfin, non, je t'ai plu, c'est bon, c'est vraiment ma BD de l'année. » Et je suis trop contente de me dire que... Parce que j'ai quand même toujours un peu ce truc de croiser, quoi. De me dire « Allez, lisez de la BD, sérieux, c'est cool. » Et du coup, quand je lis une BD hyper bien, je me dis « Ça va être tellement facile à vendre. » Génial, donc j'aime bien aussi ça. Mais effectivement,
que ce soit accessible en fait, quelque part, non?
Ouais, que ce soit accessible. Enfin, c'est marrant que tu dis ça, je fais un petit aparté, mais il y a une BD que j'adore et que je conseille tout le temps à tout le monde, qui est moi ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Emile Ferris, qui pour moi est peut-être tout simplement une des meilleures BD de tous les temps.
Bah, j'ai vu ton post ce matin, voilà. Et c'est marrant, j'allais en parler dans le podcast.
Et justement, j'ai fait un post ce matin et j'ai plus d'arguments. Je me dis, mais je sais pas, faites ce saut de foi, croyez-moi, lisez-la, c'est merveilleux. Et donc les gens commentaient en disant, ah là là, cœur, c'est vrai, j'adore cette BD, elle est super. Et il y a deux personnes qui ont dit, et moi j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, elle est hyper difficile d'accès cette BD. En fait, ouais, ça a l'air super quand on est déjà page 100, mais il faut quand même se la coltiner au début. C'est quand même une BD de, je sais plus combien, 500 pages, au bic, avec un truc très, très onirique et assez difficile à comprendre au début. Et je me suis dit, bah, en ça, c'est peut-être le seul défaut de cette BD. Mais c'est pas un vrai défaut, parce que c'est une œuvre et qu'on n'a pas à se dire, bon, c'est pas comme une série de HBO où tu dis, oh, moi, les séries où on te dit, ah, tu vas voir, à la deuxième saison, c'est super, et bah, c'est non. Bon, un livre, c'est quand même autre chose, quoi. On n'est pas... T'es pas là pour essayer de capter l'attention des gens entre deux trucs, mais... C'est vrai que c'est aussi un argument, quoi, c'est de se dire, à partir du moment où elle est difficile d'accès, c'est un sans faute, quoi. Mmh. Après, je trouve que c'est quand même un sans faute parce que elle est dure d'accès 20 pages, quoi.
Est-ce que tu peux raconter peut-être un peu l'histoire de la BD pour les gens qui ne voient pas du tout de quoi on parle?
Hyper dur, ouais, de la raconter, l'histoire. C'est l'histoire d'une... c'est l'histoire d'une petite fille qui pense qu'elle est un monstre. Donc elle est représentée sous forme de monstre tout le temps parce qu'elle se sent un monstre pour plein de raisons. Et il y a un mystère dans l'immeuble dans lequel elle habite qui est en fait, c'est vraiment ça l'histoire. C'est-à-dire, à partir du moment où elle commence à mener l'enquête sur le mystère de son immeuble, on découvre que c'est pas genre un mystère, c'est vraiment un truc extraordinaire et assez dramatique. Mais l'intérêt de cet album, c'est que donc il est dessiné au bic couleur. De manière complètement surnaturelle, c'est-à-dire que c'est du réalisme photo mélangé avec une esthétique hyper... Je suis super nulle pour décrire les images, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc c'est une énorme BD. C'est l'œuvre, on pourrait dire, c'est l'œuvre d'une vie, puisque l'autrice Émile Ferris s'est retrouvée à être quasiment semi-handicapée après une piqûre de moustique qui a mal tourné. C'est vraiment une histoire tragique. Wow. Donc elle a aujourd'hui encore une canne, etc. Et vraiment, pour se réapproprier ses mains, elle s'est mise à dessiner cet album et elle a mis, je veux pas dire de conneries, mais 10 ans, quoi. Elle a vraiment passé une partie de sa vie à faire cette BD. Quand on voit le résultat, on veut bien croire qu'elle a mis du temps, parce que c'est quand même assez fou. Et donc en ce moment, elle est en train de faire la suite. Donc probablement qu'elle va encore mettre une autre partie de sa vie à le faire. Et je pense que c'est la bande dessinée par Mouse peut-être, mais je pense que c'est la bande dessinée qui a eu le plus de prix. Elle a eu des prix qui sont normalement des prix de littérature, de type New York Times, etc. Bon, elle a eu le grand chelem de tous les prix de la BD qu'on peut imaginer. Et vraiment, les gens sont toujours à dire, bah, y a rien à dire, elle est incroyable cette BD. Voilà. Chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, en version française.
Qui n'est d'ailleurs pas un éditeur de BD, mais qui a eu un énorme coup de cœur.
Mais qui s'est vraiment battu pour l'avoir. Ouais. Quoi. Et je peux te dire, le off, c'est que ça grinçait des dents dans les chaumières chez tous les éditeurs à peu près de France qui voulaient être les premiers sur le coup pour l'avoir et qui se sont fait damer le pion par un éditeur qui ne fait pas de BD. Donc c'est quand même une super histoire un peu punk. On aime bien.
Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la BD qui a souvent... Oui, Cyrus, une petite intervention.
Ouais, Tom, t'as
ouais,
pas dit...
Ouais, t'as fait un petit...
Ouais, c'est ouais, vrai.
Ouais, je sais quoi, la BD préférée.
Ouais, t'as pas parlé de toi.
Alors, moi, mon rapport à la BD, il est assez contrasté. C'est-à-dire dans le sens où j'ai lu des trucs très différents, très jeunes. Donc tu parlais, je pense, d'héritage culturel. Et effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui lisaient pas mal de BD. Il y avait un vrai mélange de ce qu'on appelle la BD franco-belge, donc qui est vraiment ce qu'on a cité, les grands noms, que ce soit Tintin, du Spirou, du Modeste et Pompon à l'ancienne. Et j'étais abonné au journal de Spirou très vite. Donc j'ai vraiment eu cette culture-là avec... on part sur du Garage Isidore, on part sur les Cranibales, on part sur l'Agent 212, enfin vraiment des BD classiques Spirou, etc. Mais d'un autre côté, il y avait aussi dans la bibliothèque au même niveau, c'est-à-dire que mes parents, je pense, ne pensaient pas forcément aux répercussions que ça pourrait avoir sur moi, beaucoup de BD de la collection Fuite Glaciale, Humanoïde Associé, notamment Rox et Rox, qui est un truc qui est assez trash quand t'es petit, quand t'as 6-7 ans et que t'as un album de Rox et Rox qui se passe dans un futur à base de cyborgs, enfin c'est beaucoup de violence, beaucoup de sexe, et du coup j'étais pris entre ces deux trucs, où d'un côté j'étais vachement, je prenais des trucs qui étaient assez trash, pas du tout mon âge, je me disais ok c'est hyper transgressif, la BD ça permet en fait de vraiment, je me disais que c'était le truc le plus direct pour me présenter à quelqu'un ce qu'on avait en tête de manière précise en fait, je me dis ok on peut tout imaginer en fait, tout peut être dessiné, il n'y a pas de limite, et je trouve ça dingue, et il y avait ce côté un peu, ok je fais un truc un peu interdit, et ça me stimule énormément. Et de l'autre côté, j'étais vachement sensible et touché par l'humour Spirou, au sens large, donc le journal de Spirou. Et aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, des BD dans Picsou. J'ai beaucoup lu Picsou Magazine aussi. Et du coup, j'étais un peu sur cette ambivalence entre les deux. J'en lisais beaucoup, mais je passais vraiment d'un truc, d'un univers qui n'était pas du tout pour moi, à un truc qui était beaucoup plus pour moi. Et je sais pas, ça a été important, je pense, dans ma construction et mon rapport à la fiction, d'avoir ces deux trucs un peu ambivalents sans cesse. Et je remercie du coup mon père d'avoir très mal rangé ses BD. On a parlé un petit peu, donc, du coup, de la mise en valeur du travail des auteurs et autrices de bande dessinée. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, la BD qui a été considérée pendant plusieurs années comme un art mineur, est-ce qu'aujourd'hui, elle a la place qu'elle mérite dans la culture, ou il y a encore du travail à faire, Lucie, pour toi ?
Pour moi, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Enfin, quand on voit dans les médias, clairement, ils invitent Riyad Satouf. Pénélope, tu commences à être de plus en plus invitée dans les médias. Mais tu regardes une émission de la Grande Librairie, c'est quand même hyper rare qu'ils parlent de BD. Donc, je me dis qu'au moins, le festival de la BD d'Angoulême arrive à mettre une fois par an la BD en avant. L'année prochaine, 2020, c'est l'année de la BD. Donc je vais voir. Je ne sais pas ce qui est prévu vraiment.
L'année de la BD,
C'est-à-dire que c'est le Centre national du livre qui a décrété que c'était l'année de la BD.
Ah d'accord. Et je pensais que c'était après le cheval.
Oui, moi aussi, c'était un signe chinois. Ouais, ouais, un nouveau,
Et ça serait cool. Donc peut-être qu'il va se passer plein de choses autour de la BD. En tout cas, il y a cette volonté de la mettre en avant. Mais bon, si on fait un petit état des lieux aujourd'hui, c'est pas encore très très connu. Je suis sûre qu'on parle à des gens dans un café de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Il n'y a pas énormément de gens qui vont dire « ah oui, je connais ». En fait, ça reste encore un peu niche.
Ouais, et d'ailleurs, c'est curieux parce que c'est le secteur de l'édition qui se porte le mieux quand même. Pas pour les auteurs, je précise, qui sont méga précaires, mais pour les chiffres de vente d'une BD. Tu vois, tu parlais de Titeuf, aucun auteur de littérature, même Marc Lévy et compagnie, n'arrive à la cheville en termes de vente d'une BD comme ça. C'est vraiment. C'est un secteur de livres. La BD qu'on offre à Noël, au neveu. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc. Je pense qu'on offre plus de BD qu'on offre de littérature. Donc. C'est à la fois très populaire et à la fois un peu prisonnier de ce truc très populaire qui est, tu vois, le truc le plus classique, c'est quand c'est ton métier et que, genre, chez le docteur, on nous fait quoi comme métier ? Et tu dis, ça va être chiant encore. J'ai fait de la bande dessinée. Ah, mais génial ! Alors moi, quand j'étais petit, ce que j'aimais vachement, tu vois, d'accord. Yes. Et ils disent, mais c'est la BD, du coup, pour enfants ? Tu dis, non ? Alors après, ils font sinon, non plus. Non, c'est juste de la BD pour tout le monde, en fait. C'est dur d'avoir cette pédagogie, toujours, de dire... mais non, mais en fait, la BD, c'est pas forcément... Journal de Mickey, pour lequel j'ai un grand respect. Mais bon, c'est assez long. Mais c'est vrai quand même qu'il faut aussi voir un peu les choses qui s'arrangent. Depuis une dizaine d'années, il y a un côté très... un événement Télérama avec la bande dessinée. On a inventé ce terme magique de roman graphique qui permet aux gens d'acheter des BD sans se dire qu'ils achètent des trucs rigolos. Donc c'est cool, ils disent « Ah, j'ai lu un incroyable roman graphique !» Et donc voilà, c'est super. Et puis c'est très adapté aussi au ciné, en série. Tu vois, on parlait de Fab Caro. Regarde le nombre d'adaptations, un truc de Fab Caro qui arrive en 2020. C'est quand même assez incroyable. Donc ça... Vraiment, quand il y a un succès commercial énorme, ça dépasse les murs du succès de BD. Donc, ça y est, c'est un peu... Mais pour combien d'albums mortels dont personne ne parle, quoi. Donc, c'est quand même compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a Angoulême qui permet, pendant 4 jours, que ça intéresse tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que même tous les quotidiens font leur une en BD, tu vois. Ça a un peu d'importance pendant 4 jours. Bon, c'est toujours ça de prix. Mais c'est étonnant, hein, parce que c'est quand même...
Hyper accessible.
Alors, accessible oui non, c'est cher.
Ouais, c'est ça.
Voilà. C'est-à-dire à une époque de gratuité de la culture, ou presque, tu vois. On n'a pas un système d'abonnement et de streaming à la BD.
Non, mais il y a des blogs. Toi, notamment, tu as fait un blog BD que tu as toujours, si tu ne dis pas de bêtises.
Je ne suis pas allée voir depuis longtemps. Forcément actualisé,
mais je veux dire, c'est des portes d'entrée qui permettent aussi d'avoir de la gratuité, de l'accessibilité. Et c'est ce genre de trucs-là qui permettent aussi.
Il y a les bibliothèques aussi. C'est vrai qu'on n'a plus trop le réflexe d'y aller quand on vit. Enfin,
et puis même, il y avait un coin à la Fnac où tout le monde se posait. Enfin, moi, j'ai beaucoup lu comme ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la BD française, elle a une identité à part ou elle se confond avec d'autres choses ? Ce serait quoi les spécificités de la bande dessinée française pour vous, Lucie ?
C'est dur à dire. Moi, je dirais que j'ai l'impression que les auteurs français aiment beaucoup toutes les thématiques autour du vin et les thématiques autour de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que Pénélope aura plus de choses à se dire.
Pas faux. C'est un peu chauvin de dire ça, mais je pense que la liberté de ton et de format en France, elle est unique. Il n'y a pas de pays où on... Enfin, ce genre de BD, elle est niche partout ailleurs dans le monde, en fait. C'est, tu vois, typiquement, la BD de l'association... c'était déjà compliqué avant en France de sortir des codes de la BD franco-belge, mais n'empêche que c'est une mutation qui s'est opérée et qui a très bien marché. C'est que... On se dit pas, bah non, mais ça, une BD, ça se fait pas comme ça. En fait, tout est à peu près possible pour tout un tas de raisons, notamment politiques, qui fait qu'en France, y a quand même une liberté d'édition qui est... Je parle même pas du propos, hein. Je parle de la forme, de tenter des trucs, de pas avoir une obligation de résultat aussi lourde que, par exemple, dans le comics. Enfin, les auteurs de BD américains, ils rêvent de la vie des auteurs de BD français. Alors après, on leur raconte la réalité et ils pleurent. Ils disent « Oh non, je croyais que c'était merveilleux et que vous étiez tous des rockstars millionnaires. » Non, pas du tout. Mais voilà, le manga, ça se construit tellement différemment. C'est des studios entiers avec un rythme où ils se font vraiment fouetter par l'éditeur pour que ça sorte vite. Ça leur paraît aberrant qu'un auteur puisse prendre 2 ans pour faire un livre s'il a besoin. Donc après, ce qui est dommage, c'est que c'est hyper fragilisé cette richesse et cette espèce de débordement français, parce que il y a des réalités économiques derrière qui font que c'est plus trop possible. C'est super de pouvoir passer 2 ans sur un album, mais la réalité, c'est que concrètement, quand tu passes 2 ans en ayant eu 6 000 balles d'avaloir, en fait, tu le fais pas. Donc c'est bon, ça se tend un peu, mais c'est tout un écosystème, l'édition de la BD en France, qui est qu'on a aussi des librairies BD, ce qui est rarissime quand même. Il y a plein de choses pour tenter de protéger les librairies. Enfin, vraiment, j'ai voyagé un peu pour ma BD, j'ai rencontré des auteurs de plein de pays, j'étais dans des festivals de plein de pays, et vraiment, ils regardent avec des cœurs dans les yeux la BD française, et pas du tout pour l'héritage de « Ah, Tintin, merveilleux », pas du tout. C'est parce qu'ils connaissent des auteurs français qui sont allés à Angoulême, déjà, et qui disent « Ah d'accord, il n'y a pas des jouets, des films et des voitures, c'est vraiment que de la BD en fait, c'est fou, c'est pas du tout Comic-Con, quoi. » Et c'est vraiment, je pense que le fait que un éditeur te dira pas, enfin... Oui, si, il y a toujours des exceptions, mais si tu dis à un éditeur, j'ai envie de faire une BD sur, sur l'histoire de ma famille et le poids de l'histoire qui nous... N'importe quoi, un éditeur ne va pas commencer par te faire... Ouais, alors ça, à mon avis, ça n'intéresse personne. En fait, on peut essayer des trucs, quoi. Et pareil, c'est pour les
plus
formats.
Ouvert.
Ouais, et du coup, ça fait que plein de choses existent. Et il y a un problème, on dit toujours, de surproduction dans la BD en France. Il en sort trop chaque année. Mais n'empêche que c'est plutôt un bon problème. C'est un peu simpliste de voir les choses comme ça, mais on se dit pas ouais, mais du coup je vais reprendre une série qui marche bien, c'est la seule façon de vendre des livres. Enfin, on peut quand même faire des trucs, donc moi je trouve que c'est assez... La BD française, ce qui la caractérise, c'est que elle ressemble à 1000 choses.
T'as cité le Comic Con cette année, t'as été honorée d'un prix au précédent Comic-Con, le prix Esner. Ça représente quoi, ce prix, pour toi, et cette distinction?
C'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. C'est pas comme je l'ai lu beaucoup, le plus grand prix de la BD mondiale. Non, parce qu'il n'y a pas de grand prix de la BD mondiale, mais c'est une récompense du Comic-Con, et c'est un prix assez prestigieux aux États-Unis, donc c'est chouette. Après, j'étais dans la catégorie album étranger, hein, donc c'est comme si j'avais eu... le prix du film étranger aux Oscars.
Ce qui est quand même cool.
Ce qui est super cool. Et je faisais pas la maline quand je suis allée sur scène chercher mon prix. C'était pas très intelligible ce que je disais, mais voilà. Mais non, c'est super. C'est au-delà de tout ce qu'on peut rêver, dans mon cas. Donc, je suis très contente. Il est très beau, en plus. C'est un très beau prix.
Et que ça récompense une œuvre comme Les Culottés, qui est une œuvre féministe. C'est important.
Ah bah oui, tant qu'à faire, c'est sûr que je suis contente que ce soit celle-ci qui en plus a eu une vie mouvementée aux États-Unis. Tu vois, c'est quand même un livre que j'ai dû beaucoup reprendre pour qu'il s'adapte au marché américain, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de montrer dans une BD américaine. Donc c'est un livre qui a eu une vie un peu compliquée là-bas.
Comme quoi, par exemple?
On peut pas mettre de nudité dans une BD qui doit finir dans les mains de la jeunesse.
Okay.
Voilà, mais quand je te dis pas de nudité, c'est pas de nudité.
Genre
c'est...
un genou, ça passe?
C'est-à-dire un genou, ça passe, mais un pénis de statue, non.
Ouf. Ah ouais.
Les seins nus de Joséphine Baker, non. Donc parfois, ça change quand même un peu le propos de l'histoire. Donc il a fallu reprendre
elle
tout
ça. Elle avait un soutien-gorge, Joséphine Baker,
dans Brazen, la version américaine des culottés, ouais, elle a un soutien-gorge en paillettes, par exemple. Okay. Tu vois. Dans cette version-là, il y a une histoire qui a disparu. Sur les 30, il y en a 29. Tu vois, enfin... Donc le fait que, malgré tout, il soit validé à la fin par... C'est vraiment l'industrie, parce que les Eisner, c'est l'industrie qui se remet des prix entre elles. C'est pas très tourné vers le public, quoi. Mais c'était vraiment cool. J'étais contente de pas avoir baissé les bras.
On va rentrer dans le vif du sujet et de ce débat, parce qu'on est quand même le meilleur podcast où on parle des meilleurs trucs. Faut quand même pas, hein, à un bout d'un moment. Donc aujourd'hui, on a choisi de parler de la meilleure BD. Donc comme c'est toujours un peu difficile d'aller sur un sujet aussi vaste, comme on n'aurait pas pu faire, je pense, le meilleur film tout court ou la meilleure couleur, par exemple, on a donné un petit angle à nos invités pour y réfléchir. Et on s'est dit que c'est clairement le bleu. On s'est dit que
Vert émeraude, c'est pas mal.
Vert émeraude.
Ouais, sur le côté un peu le vert émeraude.
Ouais, j'avoue.
Terracotta aussi, c'est pas mal aussi.
Terracotta,
ouais.
C'est quoi? C'est un dessert, la terracotta?
Non, c'est un peu genre terre battue Roland Garros, tu vois.
Ok. Vous ne serez pas en train d'aménager un intérieur d'appartement en ce moment,
si, et j'avoue que la salle de bain va être terracotta.
Waouh.
Tu verras ça, Tom.
Vous l'aurez entendu au meilleur podcast. On s'est dit, fête de Noël arrive, mêlons l'utile à l'agréable et proposons un petit peu des idées cadeaux et des idées de BD à offrir aux gens que vous aimez bien ou que vous aimez pas, en fonction du choix des invités, on va voir. Et du coup, on s'est dit, quelle est la meilleure BD à offrir à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'en lire ? Lucie, est-ce que tu veux ouvrir le bal et parler peut-être un peu des challengers que tu as voulu nommer pour faire monter la sauce et ensuite parler de ton choix ?
Alors, des challengers, bah, j'en avais deux. Alors, le tout premier, c'était Calvin et Hobbes. Ouais. Ah, ouais. Pas mal.
On part déjà sur un gros morceau, quoi.
Donc, Calvin et Hobbes, c'est une série de strips imaginée par Bill Watterson. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un tigre en peluche. Et ce tigre a l'air de prendre vie. On ne sait pas trop. La frontière est floue entre réel et imaginaire. On ne sait pas trop s'il se transforme pour de vrai. Et donc, il vit des petites péripéties ordinaires. Hein. Il va à l'école. Il essaye de dragouiller sa voisine à côté et tout ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture. Tu as le côté, oui, je le lis en tant qu'enfant. Et finalement, je m'identifie vachement à Calvin, parce que voilà, il est hyper turbulent, il a plein de caractères, il est rigolo, et puis le tir, il est cool, il est toujours là pour l'aider et tout. Et t'as un second niveau de lecture quand t'es adulte, et en fait, tu te rends compte que c'est hyper profond, mais vraiment, tu te prends des baffes parfois où tu lis des cases, tu fais ah, ok, je vais m'allonger un coup là, parce que tu viens de remettre en cause toute mon existence sur Terre là, donc faut que je respire un coup. Donc voilà, je me suis dit, pour quelqu'un qui ne connaît pas la BD, je trouve que tu as le côté attractif de te dire déjà c'est facile à lire, c'est des strips, c'est rapide, tu peux picorer dedans, hein, tu peux, bon, vaut mieux lire du début à la fin, mais tu peux l'ouvrir où tu veux.
Les strips, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est...
C'est des BD en 3-4 cases ou sur une page, voilà, c'est des...
D'accord, des bandes.
C'est vraiment, ouais, un concentré d'histoire très très resserré. Et donc voilà, et en plus je me suis dit, Calvin et Hobbes, c'est cool parce que même si t'aimes pas, tu peux le refiler à un gamin, à ton fils, voilà, tu le mets dans la bibliothèque, finalement tout le monde sera content. Donc voilà mon premier choix, et mon deuxième choix a été cité par Pénélope, c'était Zai 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 de Fab Caro. Alors pour vous pitcher Zai 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 Zai,
c'est compliqué.
Non, bah on va commencer par le début, hein. Donc c'est l'histoire d'un homme qui arrive à la caisse du supermarché et patatras, il a oublié sa carte de fidélité. Donc ni une ni deux, la caissière rappelle la sécurité. C'est la panique. Le mec, voilà, panique. Il dit attention, je vais utiliser ce poireau, reculer, tout ça. Et ça part en fait en course poursuite avec les autorités. Et la BD va alterner donc le point de vue du fugitif, hein, qui n'avait pas sa carte de fidélité au supermarché, le point de vue des autorités et le point de vue aussi des gens, hein, qui ont bien sûr un avis à donner sur cette situation, un avis qui se fonde pas forcément sur la réalité. On va aussi voir les chaînes d'infos qui vont prendre très 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 au sérieux cette histoire, pour lesquelles ils n'ont aucune donnée vraiment concrète, donc ils vont tisser plein de, voilà, toute l'histoire autour de ce mec qui est parti de ce supermarché. Donc comme vous l'avez constaté, c'est complètement absurde, mais vraiment, c'est la BD là, mais j'en perds mes mots tellement c'est drôle, mais c'est fou, c'est-à-dire que t'as du mal à la lire tellement tes yeux sont plissés de rire, parce qu'en vrai tu vas mettre beaucoup trop de temps à la lire, parce que voilà, tu n'y arrives pas, c'est trop marrant. Et donc bon, bah, je me dis que pour quelqu'un qui n'en lit pas, déjà c'est drôle. Graphiquement, c'est peut-être pas le plus facile pour rentrer dans la BD, mais il peut y avoir un côté, je sais pas, ça peut susciter l'intérêt, la curiosité.
C'est un peu le pont dont parlait Pénélope, où des gens, ouais, qui ont lu des livres se disent ok, ça ressemble pas vraiment à une BD classique avec des cases, des couleurs vives, donc je peux me permettre de la lire parce que ça fait un peu ce pont.
C'est un peu ce pont, ou c'est le côté qui se sait que ce truc. Et vraiment, c'est une expérience que j'ai menée avec énormément de gens. À chaque fois que j'ai donné cette BD en me disant lis-la, voilà.
100% de réussite.
100% de réussite.
Fab Caro, c'est fou.
C'est-à-dire, ils l'ouvrent, ils lisent, et puis après, tu les entends plus pendant une demi-heure parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter. En fait.
Et moi, je lis par-dessus leur épaule pendant qu'ils la relisent. Et je vais faire.
T'as vu,
40e fois.
Et attends, tu vas voir à la page suivante et tout. Oui. Et donc voilà, je pense que c'est une très bonne BD quand t'en lis pas, que t'as envie de te marrer, parce que voilà, comme disait Pénélope tout à l'heure, tu te marres, et quel bonheur vraiment de rigoler. Et voilà, et donc c'était plutôt mon choix, j'allais plutôt partir sur Fab Caro, à mettre sous le sapin. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que c'est une BD qui existe depuis quoi, 2015, 2014, 2015. Et si tu ne lis pas de BD, ça veut dire que tu ne l'as pas encore lu et que tu vas avoir le plaisir de la découvrir. Et j'envie tous ces gens qui n'ont pas lu Fab Caro et qui vont pouvoir découvrir cette BD. Et d'ailleurs, comme disait Pénélope, il y a une adaptation qui est prévue, là, qui est en tournage. Je ne sais plus si c'est le discours.
Ouais, mais ils l'ont fait sur scène, ils l'ont fait en feuilleton audio.
Ouais. Il y a les mecs de Messages à caractère informatif qui Top. Ont fait une adaptation.
Il y a même Alain Chabat qui a lu Fab Caro.
Les vrais, les vrais valides, quoi. Les vrais.
Ouais, ouais.
C'est un seul tome.
Ouais, c'est un seul tome.
Tout petit en plus.
C'est tout petit, ouais.
Ok.
C'est, en plus, ça, pour le coup, tu peux le lire dans le métro parce que c'est facile à transporter, c'est du souple. Et c'est pas excessivement cher, dans mes souvenirs, doit être autour de 10 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, Fab Caro, Zai, référence à Joe Dassin. Je veux dire, est-ce qu'il faut encore vous donner d'autres arguments pour découvrir cette BD ? Voilà, tel est mon choix.
Ok, on a un challenger. Un challenger, c'est Zai. Pénélope, c'est quoi pour toi la meilleure BD à offrir à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en lire ?
Hyper dur, surtout que la barre est haute là. Si c'est pour rire, moi j'ai un challenger immédiat à Fab Caro, c'est Francis Blaireau Farceur. Jusqu'ici, pareil, inégalé en termes de j'en arrive plus à finir le livre tellement ils pleurent de rire et ils ont des crampes au ventre. C'est une petite série de tout petits bouquins qui raconte l'histoire d'un blaireau qui s'appelle Francis. Voilà, et ça, c'est une histoire en une page. Et Francis commence toutes ses histoires par Francis se balader dans la campagne.
C'est la même case, c'est ça à chaque fois.
Hop,
la première.
Il saute par-dessus un buisson et il arrive vraiment des choses très, très. C'est pas drôle d'ailleurs, c'est horrible. Alors pour le coup, c'est vraiment pas une BD à laisser lire aux enfants qui commencent à apprendre à lire. Parce qu'ils vont avoir beaucoup de questions après, auxquelles on n'a pas du tout envie de répondre.
Et beaucoup trop de réponses à des questions qu'ils avaient pas.
Ouais, et puis surtout, ça va aller beaucoup trop loin dans « Mon Dieu, mais le monde va mal !» C'est horrible. Mais c'est gros défi de réussir à la lire sans pleurer, de rire. Pareil, énormément un fort taux de réussite de cadeaux faits où les gens disent « Mais en plus, il y en a d'autres !» Tu te dis « Mais c'est génial !» Il y en a genre 5 ou 6, c'est génial. Donc Francis Blaireau Farceur, super. Et sinon, si c'est pour pas rire, du tout, c'est vraiment pas marrant, mais c'est beau et pareil, il a été testé de nombreux Noël et anniversaires et il marche toujours bien quand même. C'est Quartier lointain de Jiro Taniguchi. Alors du coup, c'est bien parce que ça met à bas d'un coup les gens qui disent « Ah, tu sais, j'aime pas trop la BD, ah, tu sais, je lis pas trop de manga ». Hop là, d'une pierre deux coups. C'est un livre qui est chez Casterman, qui est un gros manga, dans la mesure où c'est écrit par un auteur japonais, mais très beau, très classe. C'est pas un tout petit livre. Il est même beau sur une table basse. Et l'histoire, c'est un mec en costume qui a la quarantaine, qui travaille, voilà, qui s'endort dans un train en rentrant chez lui, probablement dans le Shinkansen. Et, sauf qu'en fait, il rate sa station. Et du coup, il dort jusqu'au terminus du truc et ça le ramène dans le bled où il habitait quand il était petit. Et donc, il se réveille dans son train et il se dit « Ah, mais attends, qu'est-ce que je fous à la gare de machin ?» Et en fait, il est redevenu le garçon qu'il était à l'époque où il habitait là-bas. C'est-à-dire qu'il sort du train, sa mère l'attend, lui dit « Ah, t'étais où ? T'étais de voir ?» et tout ça. Et en fait, il va revenir dans sa famille en étant enfant, juste avant le moment où il se souvient que son père s'est barré. Donc il le sait dès le début. Sauf que maintenant, c'est lui qui a un homme de 40 ans, qui a des gosses et qui a tout ça. Et qui se dit, ah, d'un côté, je te déteste, mais en même temps, je commence à te comprendre un peu, c'est vraiment compliqué. Et donc personne ne doit savoir qu'il connaît la suite, etc. C'est rocambolesque. C'est très subtil. Et alors là, je vous mets au défi de ne pas pleurer tout court, puisque c'est vraiment l'avalanche de larmes et de morve à la fin de cette BD. C'est
sur une échelle du tombeau des Lucioles, on est sur...
C'est pas triste dans le sens où il n'y a pas d'enfant qui meurt.
Ok.
Pour reprendre le point à tomber
du ciel. Spoil, mais c'est cool.
Ah, tout le monde l'a vu.
Oui,
ça suffit.
Moi, putain, qu'à couper au montage.
Bah, ne le vois pas, les enfants meurent. Voilà. Bon, très bien. Désolé. Qui est Kaiser Soze ? Voilà, moi, qui meurt dans le tombeau des Lucioles ? Les enfants. Bon, en même temps, un indice, ça parle quand même d'attaque nucléaire au Japon. Donc, un indice en bas de l'écran.
Le tombeau dans le titre.
Ouais, des tombeaux déjà aussi.
Et c'est écrit sous la fiche du film Les enfants meurent. Il y a beaucoup d'indices, quoi.
Et non, là, tu pleures de c'est magnifique, c'est tellement dur la vie, oh mon Dieu, j'ai envie d'appeler mes parents. Enfin, c'est complètement le bouleversement intérieur pendant des heures. C'est magnifique. Voilà. Et sinon, si vous êtes, vos amis sont des insensibles qui n'ont aucune émotion et que Rennes les fait pleurer, franchement, j'y repense de plus en plus en ce moment à cause de l'actualité de série. Mais franchement, offrez Watchmen.
Ouais.
Franchement, l'intégrale de Watchmen. Et ouais. Alors là aussi, j'aime pas les super-héros. Eh ben, très bien, alors lis Watchmen. Parfait. Si t'as aimé le film, tu vas voir, c'est cool parce que c'est le storyboard du film, quoi.
Exactement. Les plans sont
les mêmes. Voilà. Si t'as pas aimé le film, bah, tu vois, le livre est mieux. Et si tu trouves que la série, franchement, on est vraiment dans un cap de ce qui avait jamais été fait en série, ouais, lis la BD quand même. Voilà. Franchement, Watchmen, simple, propre, très bien.
T'as commencé la série ?
Non, parce que moi, je suis la team. J'aime pas devoir attendre une semaine.
Ah.
Donc j'attends.
Mais c'est moi justement je trouve ça cool, moi d'attendre une semaine, ouais.
Ça te refrustre, ouais.
Vous êtes vraiment bizarre, vous avez bien attendu une semaine pour avoir la suite d'un truc.
Mais en plus ça a été écrit pour, donc je trouve ça, tu vois, c'est comme la BD où tu disais genre c'est pas fait pour que ce soit décalé, etc. Ouais. Bah genre la série à la base, tu vois genre les épisodes de Lost par exemple, il y a un tel cliffhanger à la fin parce que c'est écrit pour que tu les regardes, tu sois frustré pendant une semaine, tu te fasses des théories, tu y penses, etc.
J'adore.
Et donc le fait de binge-watcher.
Mais la quid de la joie de regarder toute une saison en une nuit. C'est quand même merveilleux.
Non, j'avoue, moi j'ai mal aux yeux et tout. Peut-être, je sais pas.
Toi, t'aurais été du genre à regarder Tchernobyl en regardant un par semaine pour, pour t'infliger ça ?
Après, il n'y a que 6 épisodes, je crois. Donc,
C'est ce qu'on a sur Game of Thrones aussi, vu qu'on les mate au fur et à mesure.
Ma meuf l'a vu sans moi. Donc
pas cool.
Wow, trahison.
Ouais. Pas cool.
C'est pire que si elle t'avait trompé, je pense.
Mais je suis sûre, je la connais pas, mais je suis sûre qu'elle a hyper envie de le revoir une deuxième fois avec toi et de regarder ta tête et faire demander. T'as vu, c'est ouf.
Donc du coup, ouais, j'avoue, en plus c'est les codes MyCanal, etc. Genre c'est sur son ordi à elle, moi j'ai pas MyCanal. Bref, on vient de rentrer dans mon
intimité. Il y a un sujet compliqué
là-dessus.
Ça et la
terracotta, on commence à avoir beaucoup d'infos sur ton foyer.
Mais oui, la série Watchmen est hyper bien. Moi, j'ai commencé aussi et je trouve ce truc de frustration est cool parce qu'en plus, elle t'amène à chaque épisode. T'as vraiment.
Je suis désolée.
T'inquiète, pas de soucis.
C'est un moustique.
C'était pas.
D'accord, ok.
Un vrai moustique. Okay. Ouais.
Bien joué.
Je crois que t'avais juste donné un coup dans la table.
Parce que j'en ai marre, je pense pas les meubles. Ce débat ne va nulle part.
J'aime pas les meubles. Et non, la série est vachement bien.
J'aime pas la terracotta. Voilà.
Couleur de beauf, je me casse.
Cyrus,
ouais.
Mon petit Cyrus,
yes.
Quelle est donc cette BD que tu as lu jusqu'à pas derrière, qui j'imagine est la meilleure BD à offrir à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en lire.
Moi, le premier truc que je voulais te dire, c'est que
tu es novice, tu es Chuck novice.
Je suis Chuck novice. Ah, ça me fait rire ça.
Ah oui, fatigué.
Tu veux pas commencer, Tom? Tu veux pas dire le tien et comme ça, moi, je choisis un peu entre vous trois.
Oh là là, celui-là vraiment, dans un fauteuil il est. Alors moi aussi, j'avais plusieurs challengers. Il y avait Watchmen. Pénélope a cité aussi, qui est hyper bien, pour la raison que tu as dit, j'en dirais pas du mieux, mais moi je sais que c'est une BD que j'ai lue du début à la fin, quand même un peu fat, et vraiment que t'es pris dans le truc, et effectivement c'est une BD d'anti-super-héros, c'est un peu nul de dire ça, mais du coup qui casse tous les codes des super-héros qu'on a habituels, qui sont vraiment sur des piédestals, etc. Alors, et qui dépeint une société où les héros font pas l'unanimité, quoi.
Alors juste du coup c'est anti-super-héros ou c'est super
anti-héros? Non, anti-super-héros. Ou,
ok.
Ouais, d'accord. C'était bien.
La question se pose.
Bien choisi. La question se pose, absolument. donc Watchmen, ça défonce. Ensuite j'avais un autre choix qui est un peu la facilité aussi, mais voilà, je suis extrêmement fan de son travail, c'était proposer une œuvre de Riyad Sattouf. L'Arabe du futur, parce que c'est un de ses derniers gros succès et qu'on a déjà vu un peu partout, mais au final, je pense que vraiment, quand on n'a pas l'habitude de lire une BD, et c'est un peu pareil, toujours ce pont de gens qui ont l'habitude de lire de la littérature plus classique, bon, on est embarqué dans un élément autobiographique de Riyad Sattouf, du coup, qui raconte son enfance en Syrie, à travers notamment pas mal le prisme de son père, qui est plutôt dur, il fait des allers-retours en France, vraiment, on est plongé dans l'enfance et l'adolescence d'un enfant qui grandit entre deux nations comme ça, avec pas mal d'humour noir, qui est propre à Riyad Sattouf. Moi, je suis très fan de ses œuvres un peu plus absurdes, je suis un immense fan de Pascal Brutal, qui est une série qui a été publiée dans Fuite glaciale aussi, ou qui raconte un futur anticipé de la France avec un mec qui est la virilité incarnée, qui s'appelle Pascal Brutal, et qui ne pense qu'à la frime, la violence et au sexe. Enfin bref, c'est encore une fois très dur à décrire, mais c'est génial, allez-y. La vie secrète des jeunes aussi, qui est plein de petites scènes de vie d'adolescents, et qu'il a croqué, qu'il a vu dans le métro, etc. Il recrée ça avec toujours pareil, beaucoup d'absurde. Donc pour moi, Riyad Sattouf, une valeur sûre de porte d'entrée dans la bande dessinée. Mais du coup, mon choix est un choix un peu plus audacieux, entre guillemets, mais c'est quelque chose auquel je voulais donner un peu plus de visibilité et de noblesse. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure. C'est La Jeunesse de Picsou, écrit et dessiné par Don Rosa. Je pense que c'est une très bonne BD à offrir à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en lire pour plusieurs raisons. C'est que je pense que c'est une porte d'entrée intéressante dans le sens où elle équilibre entre... on sait de quoi ça parle, un peu. Tout le monde voit à peu près qui est Picsou. Mais ça offre une lecture et une découverte d'un univers qui est hyper vaste et hyper profond. Et du coup, je trouve que c'est un bon entre-deux, entre t'as les codes et t'as des repères de ce que t'as dans les mains, mais tu vas découvrir une narration, une histoire dont tu ne doutais pas du tout, qui est hyper riche. J'aime bien l'avoir un petit peu comme le Forrest Gump de la BD, où c'est vraiment une fresque. En fait, le pitch, c'est vraiment toute la jeunesse de Picsou. Il raconte comment il s'est enrichi, qu'il a obtenu son premier sou fétiche qui est la base de sa fortune. Et on suit vraiment ses déambulations et ses métiers. Ça va aux États-Unis, ça va en Afrique du Sud, ça va dans l'océan. Il rencontre Roosevelt, il rencontre Buffalo Bill. Enfin, vraiment, c'est Forrest Gump en BD. On s'attache vachement au personnage. Il y a énormément d'humour. Et moi, ce que j'adore d'un point de vue très visuel, c'est que chaque case est presque un film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments en second plan, etc. C'est très recherché. Les mimiques des personnages sont folles. C'est très riche, en fait. Il y a plein d'indices partout. Ils s'amusent au début de chaque page, par exemple, à cacher le mot duck dans plein d'éléments de décor. Il y a un petit jeu. En fait, je trouve que lire un album de la jeunesse de Picsou, vraiment, c'est un espèce d'un truc 360 que tu prends où tu te marres, où t'as une histoire qui est hyper épique. Bon, personnellement, c'est très subjectif, mais j'adore le dessin et ça remet un peu en place le fait de se dire, ok, la BD c'est pas qu'un truc de gamin, des petits canards et tout, et c'est un truc très complexe. Il y a de l'émotion et de l'aventure, il y a un passage avec quand il tombe amoureux qui est hyper fort et tout, enfin bref, je trouve que c'est une super BD et je trouve que ça permet un petit peu de reconnecter avec son âme d'enfant tout en apportant une plus-value vraiment technique sur ce qu'est l'objet en lui-même, quoi. Voilà.
Putain, il est fort, hein.
Ah ouais. Mais t'as trop raison, c'est une super idée de...
Yes.
C'est tellement bien, Vodan Rosa, c'est trop bien, mais trop c'est fort. Vrai. Puis surtout ce truc historique, quoi.
C'est dingue. Voilà, c'était mon...
Je repars
c'était
avec un panier bien garni.
Bon, mais alors, c'est quoi ce que t'as lu jusqu'à 2h du mat?
J'ai lu Black Sad.
Ah, bah oui.
Mais moi je suis vraiment très naïf, quoi. C'est genre j'ai vu des gars avec des animaux qui ont des têtes d'animaux, j'ai fait ah, ça a l'air cool, en plus il avait un trench et tout, je me suis dit ah, cet univers a l'air chambé. Et moi c'est presque plus pour ensuite avoir la figurine. Moi je suis très tu vois, j'aime bien les objets, ouais, j'aime bien les objets, etc. Et donc je me dis ah, ça c'est l'air cool, c'est du coup j'ai envie de plonger dans cet univers pour pouvoir dire je connais ça.
Et t'as aimé alors?
Ouais, j'ai trouvé ça cool, mais pas assez cool pour vous dire que je pense que c'est la meilleure BD, tu vois.
Est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire?
On est dans un univers où les animaux sont anthropomorphisés, hein, un peu comme Zootopie. Et on suit l'aventure d'un chat qui est un détective. Le premier tome commence avec un ancien amour qui se retrouve tué par balle et donc il va mener l'enquête. Et donc c'est une série d'enquêtes, enfin le tome 2 c'est une enquête aussi, j'imagine que le tome 3 aussi. De toute façon il est détective, donc à mon avis vraiment c'est sa logique.
Yeah, voilà. Peut-être pas un épisode où il fait du parapente.
Non, ou une tarte tatin, vraiment ça serait chelou, quoi, vraiment il est détective.
Mais audacieux.
Mais audacieux. Et je trouve que les dessins sont superbes, enfin l'esthétique, voilà, encore une fois c'est très subjectif, mais je sais même pas comment c'est colorié, mais j'ai l'impression que c'est presque, il y a un côté un peu peinture presque,
je crois,
ou aquarelle.
C'est le cas, hein. Ouais. Je crois que c'est de l'aquarelle.
J'adore ces scènes où la caméra, entre guillemets, le point de vue est de haut. Et donc, t'es dans un intérieur où c'est vraiment le bordel. Il y a de l'alcool, du tabac et un mec avec une tête de lézard allongé avec une flaque de sang. Et lui qui est en train de s'engriller sur le canapé, tu vois, avec son costume cravate. C'est tellement stylé. Et je sais pas, il y a un côté aussi New York que... New York des années 60 un petit peu, que j'aime beaucoup. De toute façon, New York, c'est, tu sais, l'affection que j'ai pour New York, c'est une ville incroyable.
Non, mais
pas BD, tu vois.
Non, mais c'est intéressant parce que finalement, tu dis que t'es pas forcément quelqu'un qui lit beaucoup de BD, et si ton œil était attiré par ça et que t'as kiffé, c'est potentiellement une œuvre qui peut plaire aux gens qui n'ont pas l'habitude.
Non, mais et puis je me suis dit, tu vois, en lisant ça et tout hier soir, je me suis dit, ok, en fait, t'avais peut-être pas... peut-être pas assez une forme de maturité, dans, pas une question d'âge, mais une question de sensibilisation à l'art, etc., à l'art qu'est la BD. Et là, je commence peut-être à me dire, vas-y, en fait, il faudrait peut-être que je me plonge sur d'autres trucs. Donc là, vraiment, quand je vous disais panier, c'est vraiment panier, quoi. C'est genre, j'ai ma liste de Noël, quoi. Mais pour moi, vraiment. Après, il faut que je fasse pour les autres. Mais en vous écoutant, je pense que celui qui m'attire le plus... c'est Quartier Lointain.
Allez, vas-y, ça commence. Okay.
Des os.
Parce qu'il est déjà tombé dans mon feed, entre guillemets, de recommandations. J'ai déjà vu passer et j'ai déjà été attiré. En fait, l'histoire que tu racontes là sur les parents et... enfin, tu sais, les parents, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi.
Ça marche bien sur moi aussi, ouais.
Non, mais vraiment sur... De toute façon, tu pars en thérapie, c'est genre... on remonte tout de suite à ça, quoi. C'est genre vraiment... ok, on peut perdre du temps sur ce qui vous agace aujourd'hui.
Oui, j'aime pas mon travail. Oui, votre mère.
Voilà, dans 3-4 séances, voilà, ouais. C'est ça. Et, et je, tu vois, je suis chaud pour chialer devant un truc qui a une esthétique en plus un peu nippone et qui moi me fait kiffer quoi. Donc
ouais, qui du coup donne faim comme tous ces bouquins là. Vous voyez pas ça quand vous lisez des mangas un peu longs, vous avez la dalle. Il n'y a pas dire, mais d'abord, je vais m'arrêter dans ce petit boui-boui dans la rue pour manger de délicieux ramen. Oh, j'ai la dalle.
Ça fait pleurer. Super bien, et les gyoza aussi. Les gyoza dans les mangas et. Oh là là, ils sont.
Donc on est parti sur le vote. Donc toi, t'as déjà donné ton vote, quoi. Ça y est, on est. A priori, ouais. C'était comme ça, quoi. Sans roulement de tambour ni rien, quoi.
Ouais, okay. Mais je pense que Pénélope risque de changer de vote. Parce que. Enfin, je sais pas, elle avait l'air attirée par ton choix du Picsou.
Ah, parce qu'on vote.
D'accord. Non, c'est le vote. Okay, c'est un peu brûler les étapes. Ouais. On peut voter pour soi. On peut voter pour soi.
Voilà, au premier round, tu peux voter pour toi.
On peut voter pour toi. Si jamais il y a une égalité, on est obligé de voter pour le choix de quelqu'un d'autre.
Voilà. Et s'il y a vraiment une égalité ultime, okay. Là, ça sera le public qui déterminera lors de sondages Twitter et Instagram.
Wow. Exactement.
Donc. Mais l'intitulé étant, quelle est la meilleure BD à offrir à quelqu'un qui pense qu'il n'aime pas la BD?
Non, qui n'a pas l'habitude d'en lire.
Ok. Qui n'a pas l'habitude d'en lire.
Ah, j'avoue, je change de vote.
Alors, change de vote. Ouais, enfin, je vais pas voter, mais je change de vote. moi, je suis assez d'accord avec toi sur Riyad, mais je dirais Retour au collège. Moi, j'offrirais Retour au collège parce que c'est...
Nouveau challenger. Ok, nouveau challenger rentre dans le tournoi.
Non, parce que c'était... je vais dans ton sens, mais je trouve que plutôt que d'offrir l'Arabe du futur, où cette personne y viendra, c'est-à-dire elle va lire Retour au collège, elle va dire « Oh my god, Riyad Satouf !» Et donc après, le libraire va dire... Vous n'avez jamais entendu parler de l'Arabe du futur. Et après, c'est bon, c'est, tu vois, la machine est lancée. Mais Retour au collège, je trouve que c'est un bon harpon pour faire lire ça à quelqu'un. En gros, c'est... Bah, peut-être du coup, tu veux le raconter.
Non,
c'est ton auteur.
Je vois ce que c'est, mais je l'ai.
Et ben, il est, c'est... Je ne sais plus dans quel cadre, mais il doit aller faire un reportage sur un collège. Donc, il va dans un collège. Et en fait, il met ça en perspective avec sa propre adolescence nulle, où il était... Il n'avait ni le bon physique, ni les bons potes, ni les bons rien, donc c'était un cauchemar. Et en fait, il retrouve exactement le même zoo quoi, chez les ados de maintenant, avec les cools, les machins. Donc il se prend de pitié pour son alter ego, qui est comme lui, un peu en difficulté et tout ça. Et je trouve que Riyad Satouf, c'est vraiment le meilleur pour raconter l'adolescence. Mmh. Enfin, ouais, je ne sais pas si vous avez vu son film Les Beaux Gosses, mais...
Génial.
Vraiment, tu sens que tout est encore très vivace en lui.
Oui, il y a beaucoup de
beaucoup
choses
de,
à
beaucoup
sortir.
De plaies qui n'ont pas été pensées. Et du coup, il est hyper drôle. Et je trouve que Retour au collège le fait encore mieux que La vie secrète des jeunes. Il est vraiment hyper, hyper drôle. Et...
Mieux qu'Esther
bah, je pense que comme c'est plus autobio, Retour au collège, on a vraiment beaucoup d'empathie pour lui, quoi. C'est vraiment ça te renvoie vraiment aux jours les plus sombres de quand tu étais appelé en dernier au sport quoi. Tu vois, c'est vraiment il est vraiment dans le vif quoi. Genre ouais, c'est un bon cadeau.
OK, retour au collège. Tu as parlé donc les cahiers d'Esther, ouais. Lucie, tu as peut-être raconté ce signe démarche qui est assez cool.
Ouais, c'est en fait il suit une petite gamine, je crois qu'il commence quand elle a 11 ans ou 12 ans et il raconte vraiment sa vie scolaire principalement de ses 11 ans, ensuite 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc on la suit vraiment.
C'est une vraie gamine.
Ouais, c'est une vraie gamine qui
il s'entretient avec elle et vraiment. Tout
et c'est trop marrant, et enfin c'est génial, c'est la pureté de l'adolescence, et je trouve que ça nous fait du bien quand on commence à vieillir, de se dire, ok, alors c'est quoi la vie des ados maintenant, parce que je me sens complètement déconnectée, non, c'est vraiment cool, et c'est très, très accessible.
Ok, boomer.
Et c'est grave.
Ok, c'est tombé.
Et ce que j'aime bien, c'est que c'est, il y a un côté très cru, il y a un côté, oui, elle dit des gros mots, elle utilise le jargon des ados et tout, et je trouve qu'il y a un côté très, très authentique et pas lissé, quoi.
Mais donc il est très, cet auteur est très dans vraiment l'adolescence,
ouais, c'est un gros sujet.
C'est spécialiste parcours de vie, quoi. Okay.
C'est quoi ton choix, toi, Lucie?
Moi, j'ai bien aimé ton choix, parce que j'ai pas lu cette BD, et juste, je crois comprendre qu'on peut savoir comment Picsou est devenu riche, ouais. Qui est vraiment une question que je me pose depuis toujours, donc rien que pour ça, je pense que tu me l'offres, je lis pas de BD, je fais ok, au moins je vais passer les pages pour savoir à quel moment il devient riche. Mais comme tu dis, oui, en plus c'est un personnage hyper... hyper mainstream.
Donc ça vient de vachement d'empathie, parce que du coup on le déteste un peu. Enfin, par défaut, on dit ok, il est très très riche, il est radin, comment je pourrais aimer cette personne? Et du coup, ça donne un peu d'empathie.
Ouais, carrément. Donc voilà, ça serait.
Et okay. Peut-être que tu sauras comment il a pu s'installer à Donaldville avant la naissance de Donald.
Oui.
Parce qu'on veut tous savoir.
C'est vrai.
Ok, donc on a des points très répartis. Et moi, j'allais voter pour Zai 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 Zai. J'en ai dit un trop.
Il y en a 4.
Il y en a 4. Zai 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 Zai, que je n'ai pas lu et qui effectivement plaît. Du coup, on se retrouve avec un point chacun pour 4 challengers différents.
Ça, c'est drôle. Chacun
et personne n'a voté pour soi.
Ouais, ça arrive jamais.
C'est fou, hein,
parce qu'on a un bon esprit.
C'est très fort. Du coup, je vais prendre quelqu'un au hasard dans la rue, je vais le faire descendre et je vais voir s'il peut donner son vote.
À tout de suite.
Tout de suite, on revient. Comment on fait, Cyrus? C'est jamais arrivé ce cas de figure.
Oui, j'avoue, parce que généralement, les gens ne votent pas pour.
Ok, ton deuxième choix. On va faire un tour deuxième choix.
Ok, mon deuxième choix. En fait, je suis en train de me dire que Quartier Lointain, effectivement, si c'est quelqu'un qui n'a jamais lu. Parce que c'est ça, hein. Non, ouais, c'est Noël.
Qui n'a pas l'habitude.
Qui n'a pas l'habitude, voilà. Qui n'a pas l'habitude, et eh ben, je pense que. Est-ce que. C'est aussi des strips, un peu, le blaireau, là.
Ouais, carrément. C'est des strips. Ouais.
Cette phrase. C'est un peu des strips, le blaireau, là. Absolument.
Non, mais je pense que le côté strip pour quelqu'un qui n'a jamais lu.
Imaginez Hobbes aussi, oui.
Voilà, tu vois, je pense qu'il faut penser un peu, peut-être, on peut aller sur un truc un
ouais,
peu
bien
court
sûr, bien sûr.
Pour la pâtée. Et le truc du blaireau, avec tout le temps le même début, etc., me fait kiffer.
Ok.
Donc je vais partir sur le blaireau.
Yes.
Francis, qu'on salue.
Oui. Qu'on aime.
Ouais.
Ok.
Et je vais peut-être lui offrir pour Noël, d'ailleurs.
Ça lui ferait plaisir.
Ouais, parce qu'on a un pote qui s'appelle Francis.
Ah bah, il va adorer. Ouais.
Pénélope,
il y en a qui s'appelle Francis veut mourir et va vraiment super. Un livre. Il y a Francis cherche l'amour, Francis est malade et Francis veut mourir. Vraiment super.
Pénélope, ton choix numéro 2
ouais,
du coup.
Ouais, Picsou.
Picsou. Mmh.
Quand même, c'est vrai que c'est tellement. Puis c'est super de te dire que tu peux y passer tout ton hiver, quoi.
Oui, il y a 12 tomes.
C'est très réconfortant quand même.
Ah, il y a 12 tomes.
Il y a 12 tomes.
Oh là là.
Mais
il y en a déjà un autour de cette table.
Ah, dis donc,
mais je trouve beaucoup. Que tu vois là où t'as raison quand tu dis que ça fait une passerelle parce que les gens disent ah je retrouve mon âme d'enfant mais avec mon regard d'adulte. Je pense qu'il y a plein de gens que ça rebute. Tu vois qui disent bah, super il m'a offert un Picsou quoi ça va j'ai pas eu
ouais,
8 ans. Tu vois.
Bah,
je pense qu'il faut quand même l'offrir à des gens intelligents.
Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je l'ai pas rechoisi dans le sens où dans les faits même si j'aimerais que ce soit celle-là et que j'adore cette BD. Je pense que Zaï est plus accessible. Quand vraiment on n'a pas l'habitude, c'est pour ça que c'était mon choix.
Après, c'est ton travail aussi en offrant le cadeau, tu vois.
Oui.
Je trouve que c'est ça quand t'offres des BD.
C'est une pression horrible.
Quand tu vois les gens ouvrir leurs cadeaux et qui vont ok, super. C'est vraiment ton job de faire. Alors, je sais ce que tu vas penser, mais.
Ça, c'est le pire moment.
Et de faire tout ce truc pour dire s'il te plaît, tu peux juste lire le premier et après, je te laisse tranquille. Mais lis le premier.
La minute où tout se joue, quoi, vraiment, tu sais, quand la personne.
Ah, moi, c'est
ok, top chrono, c'est parti. Ouais. Je dois aller. Ah, c'est horrible.
Ah, je préfère, moi. Parce que je préfère que soit le faire ou l'entendre. C'est le moment où le cadeau.
Mais tu dis, si tu justifies,
valeur,
c'est peut-être un mauvais choix. C'est ça qui est terrible.
Ah,
alors, pas forcément, mais tu dis, si je dois expliquer pourquoi
mais
c'est
alors
bien.
Alors qu'une paire de gants, tu vois, il y a rien à expliquer. T'es là, genre, bon, bah. Tu sais, genre.
Voilà.
D'ailleurs, l'année dernière, on a fait le meilleur cadeau à offrir à moins de 10 euros, tu sais, pour les Secrets Santa. Et donc, c'est la paire de chaussettes, je crois, qui a gagné.
C'était pas le poster dédicacé.
Paire de chaussettes, c'était... plus le sticker de carte bleue. C'est des stickers que tu mets sur ta carte bleue et
personnalisés.
Des stickers dédicacés, personnalisés, etc.
Je sais même pas que ça existe.
Nous non plus, c'est Flaubert qui était invité et qui nous a parlé de ça.
C'était pas parce qu'il y avait une très bonne idée pour la resituer de Flaubert. Justement, il disait c'était d'acheter un poster d'un truc que quelqu'un aime bien. Genre par exemple, le poster de Fight Club si la personne adore Fight Club et d'aller à une séance de dédicace nulle de quelqu'un qui est un peu naze. Genre c'est horrible, mais bon, je vais dire du coup, quelqu'un d'un peu naze, je vais dire Laurent Gérard par exemple dans un centre commercial et de faire dédicacer l'affiche de Fight Club par Laurent Gérard. Et je trouve quand même que ça crée un combo.
C'est pas mal,
ouais. Moi, c'était pas ça qui avait gagné. Je sais plus.
Je crois pas que ce soit ça qui a gagné.
C'était
quand même compliqué à mettre en place avec les chaussettes, c'est facile.
Pas faux. Ok, donc on a Picsou en 2. Lucie, deuxième choix.
Je vais prendre le Riyad Satouf de Pénélope, retour au collège.
Ok, ça marche. Et,
c'est bien complexe là. Hein.
Bah, je pense que je vais prendre Riyad Satouf aussi parce que c'était un choix que j'avais au début. Et voilà, je pense que.
Mais je pense que ton Picsou...
Parce que c'était mon idée. Donc...
Mais ton Picsou gagne là, je crois, gros.
Bah,
je pense que c'est pas égalité, non? C'est pas égalité entre Picsou et Riyad Satouf.
Je pense qu'on est sur une égalité, effectivement. Mais moi, j'ai pas repris Picsou en 1 en toute objectivité.
D'accord. Tu veux changer?
Non.
Est-ce que ça donne autant de points si on l'a choisi en premier tour et en deuxième tour?
Bah, je pense pas, à mon avis il y a plus de points au premier tour
ouais.
Mais sinon est-ce que c'est pas les gens qui vont voter?
Si, je pense qu'on va faire un petit vote final entre les deux.
Entre
Riyad Satouf et donc retour au collège et Picsou, la jeunesse de Picsou. On est sur la jeunesse quand même, on est quand même sur deux thématiques type jeunesse. Ok, donc c'est un match nul.
Ouais,
deux gagnants
ouais,
à voter sur les réseaux sociaux. Deux gagnants, la jeunesse de Picsou de Don Rosa et retour au collège de Riyad Satouf. Ça s'applaudit, bravo. Ouais. Il n'y a pas eu de vrai ou faux dans cet épisode.
Ah ouais, j'avoue.
Ouais, parce qu'on est un peu. Comme on est. Bon, pour expliquer aux gens qui n'en ont rien à foutre, mais du coup, pour expliquer que notre studio habituel est des travaux, donc on loue un studio pour faire nos enregistrements en ce moment à l'autre bout de Paris. D'ailleurs, nous remercions encore une fois Lucie et Pénélope d'avoir traversé toute la métropole pour se joindre à nous. Du coup, le temps était un peu plus choisi.
J'espère que ça valait le coup.
On verra. Promouvoir des BD, c'est toujours une bonne raison de venir.
Donc moi, il y avait juste trois infos que je trouvais cool dans le vrai ou faux que je voulais vous transmettre un petit peu comme ça à la volée. La première, c'est que le tout premier ticket de la toute première édition du Comic-Con, il a été acheté par George R. R. Martin.
Ok.
Ça a été le premier mec qui a acheté un ticket pour la Comic-Con. Je trouve ça assez ouf. Et il y avait un autre truc que je trouvais un peu marrant, c'est l'expression « mi-million de mille sabords » du Capitaine Haddock. Oui, on passe du coq à l'âne totalement. C'était vraiment un vrai ou faux sur la BD, c'est complètement... C'est des facts. Dans l'expression 1000 milliards de 1000 sabords, en fait, ça sous-entend que ça serait un 10 puissance 15 de sabords. Et dans le système international d'unité, le préfixe désignant le 10 puissance 15 est appelé péta. Donc ça voudrait dire pétasse à bord, le jeu de mots.
Ah.
Et ça, j'ai trouvé ça.
Quel vieux miso,
stylé.
Alors, c'est RG,
ouais,
jusqu'au bout,
ouf,
quoi.
Ouais, pas ouf. Clairement, là.
Dès qu'il peut en placer une contre les meufs. Hein.
Voilà, et dire aussi que le fils de Nicolas Cage s'appelle Kal-El, qui est le nom kryptonien de Superman.
Ah ouais?
Ouais. Extrêmement fan de super-héros Nicolas
Cage. Et la fille de Kevin Smith s'appelle Harley Quinn. C'est et c'est elle qui a donné le nom.
Waouh!
Énorme. Kevin Smith, le patron, quand même, qui s'est dit. Déjà, il appelait sa fille comme ça. Donc, c'est assez cool.
Énorme.
Hyper stylé. Pénélope et Lucie, merci beaucoup d'être venues passer ce moment avec nous. C'était vraiment un plaisir.
Merci à vous.
Lucie, où est-ce qu'on peut suivre tes avis, tes critiques, tes avis, tes conseils et tes séances de DJing endiablées finalement?
Et bah sur mon compte Instagram, lucie.cosmala, K-O-S-M-A-L-A. Voilà, je tire au courant de mes lectures, de mes news, de tout ce que je fais, de ma vie finalement. Donc c'est la meilleure des manières de me suivre.
Ou finalement écouter le meilleur podcast régulièrement parce que t'es là quoi, un épisode sur deux finalement, t'es avec nous.
D'ailleurs je vais commencer à vous demander un peu d'argent mais on en reparle après.
Yes, on va couper les micros.
Pénélope, oui. Où est-ce qu'on peut se retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre, enfin pas dans la rue mais oui. sur les réseaux.
Moi aussi j'ai un compte Instagram d'abord, c'est Pénélope B, comme sur Twitter. Donc c'est un peu deux salles, deux ambiances. Si vous me suivez sur Twitter, je rage essentiellement, politique, et puis je m'énerve contre des gens. Sur Instagram, on est plus chill, on est plus à des photos de ce que je mange, et puis des livres que je lis, et parfois comme une actualité professionnelle aussi, ça m'arrive. Voilà, mais voilà, on peut faire tout ça. Sinon, on peut acheter mes livres aussi, hein, n'hésitez pas. Voilà.
Un petit coffret, je crois.
J'ai un petit coffret déculotté. Non, c'est pas un coffret, c'est une intégrale.
Une intégrale.
C'était l'an dernier, le coffret. Là, on aura vraiment tout fait comme ça. Une intégrale qui sort à Noël, déculotté. Et mon nouvel album, mon nouvel opus, qui paraît fin janvier.
Oh.
D'accord.
Voilà.
On peut en dire plus ou pas?
Ah oui, complètement. C'est l'adaptation de Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Et ça va défoncer, si vous me passez l'expression.
Trop cool.
En description, on va mettre les listes de cadeaux de Noël, etc. Mm-hmm. Pour Noël, du coup, c'est quoi le mieux? C'est l'intégrale
Déculottée. Par rapport à quoi? Oui, parce qu'il manque une pointe de comparaison, en fait. Le principe de comparaison, c'est qu'il y a
par
deux...
Par rapport à Picsou, tu veux dire?
Non.
Par rapport à l'œuvre de Pénélope?
Ouais. Par rapport à
si on veut faire un cas, si on offrir une partie de
ton
c'est
bien, Noël... c'est fait pour. Hein. C'est vraiment très optimisé, cadeau de Noël, quand même.
J'en mets. Parfait.
Très cool. Merci à vous de nous avoir écoutés une fois de plus. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du meilleur podcast.
Ok, ça sera le dernier épisode avant Noël ou pas, Tom?
Oui, il y a moyen, ouais, je pense.
Vous direz à l'année prochaine?
Yes,
oui, on risque de faire ça.
Oui, on en est capable, clairement, on en est capable. La subtilité n'est pas le maître mot de l'humour ici, c'est pas le...
Et non, c'était un plaisir, et merci aussi pour les retours, on a reçu quelques retours sur le format précédent.
Oui, une interview qu'on a fait du Bear Ives, on était très contents de pouvoir faire ça, et c'est un format un peu différent, et merci beaucoup pour les retours positifs que vous avez fait, absolument.
Voilà. Absolument.
Absolument.
Il dit ça, Hubert Rives.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai tout copié sur lui. Comme je veux être lui, j'ai vraiment tout copié sur lui.
Tu sais, on lui fait, on peut vous appeler Hubert? Il fait, absolument. Et je trouve ça trop mignon, quoi. J'ai adoré.
Merci à tous. Très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de quand vous écoutez cette émission. Et à très vite.
Gros bisous.
On se quitte en chanson. 3, 4.
Simply the best. Down, 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 down.
Culotté.